du livre des Nombres.
So today we're going to start off with part, what we consider as the second part of the book of Numbers.
Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui se disent, on n'est qu'à la moitié.
Some of you are probably saying, oh no, we're only halfway.
C'est vrai que on peut penser que ces livres de l'Ancien Testament sont moins parlants que les livres du Nouveau Testament. Il y a une plus grande distance vis-à-vis de la culture et des traditions. Mais j'espère que maintenant vous avez réalisé leur valeur actuelle. Et en fait, si on a déjà passé pas mal de temps dans le livre des Nombres, on ne va pas en passer encore autant. La première partie, si vous vous souvenez, commençait avec un recensement. Et c'était la préparation de la marche de la première génération. On les a suivis, puis on a vu l'échec et le jugement. Ça, c'était les chapitres 1 à 25. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre partie qui est le recensement et la préparation de la marche de la seconde génération. Et on va garder l'espoir qu'ils ne vont pas reproduire les fautes et les péchés de leurs parents. Et c'est plus court parce qu'on va pas voir, on va les voir partir, mais on les verra arriver dans un autre livre. Vous vous souvenez donc que le livre des Nombres doit son nom à ses recensements. Il y a des longues listes de chiffres, de nombres. Le Seigneur avait demandé à Moïse de compter les gens en état de combattre. Tous ceux d'Israël qui pouvaient prendre des armes depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et on se souvient que le résultat du premier recensement, c'était près de 600 000 hommes. Et on a dit que ça devait correspondre à une population totale de 2 à 3 millions, en comptant les femmes, les enfants, les personnes âgées. Et puis on a commencé à voir les préparatifs pour la marche vers la terre promise. Ça aurait dû prendre 11 jours. On sait que ça va en prendre près de 40. 40 ans, pardon. Merci de cette précision. Ils se sont arrêtés en chemin et ils ont murmuré contre Dieu. Vous vous souvenez de Kibroth Hattaava? Les tombes du désir. Lust. Ils veulent tellement de nourriture, de bonne nourriture, que le Seigneur dégoûté leur en a donné jusqu'à ce qu'ils meurent. Et puis leur grand péché, ça a été le manque de foi. Le Seigneur leur avait promis cette merveilleuse terre promise. Il était avec eux. Il était même devant eux. Tout ce qu'elles avaient à faire, c'était de le suivre. Mais on n'est jamais très sûr. Donc ils ont envoyé des espions pour voir vraiment quels étaient les dangers dans cette terre promise. Et puis sur les 12 qui sont partis, il n'y en a que 2 qui ont dit oui, c'est une bonne terre promise. Et les 10 autres espions ont influencé toute la masse des Israélites. Et le Seigneur leur a dit, puisque c'est comme ça, vous avez fait 40 jours d'espionnage, moi je vais vous donner 40 ans d'errement dans le désert.
seen that you went in there for 40 days to spy, and now I'm going to send you into the desert for 40 years.
Et donc on a vu à maintes reprises les gens rouspéter.
The people kept on complaining and rebelling.
Se montrer ingrats envers Dieu.
And very often they were totally ungrateful towards the Lord.
Se rebeller contre leurs chefs, Moïse et Aaron.
They rebelled against Moses and Aaron.
Et bien sûr, ces choses ont été écrites pour notre instruction.
And of course, these things have been written down so that we can learn from them.
Et lorsque nous entendons ces choses, lorsque nous lisons ces fautes, au sujet de ces fautes, nous devons nous demander nous-mêmes, est-ce que moi aussi je suis pas en train d'empêcher l'action du Seigneur dans ma vie et dans le monde autour de moi? Nous avons vu les dernières semaines comment Balaam, un espèce de devin, avait été appelé par un roi qui avait peur d'Israël pour les maudire. Mais il n'y arrivait pas. Chaque fois qu'il voulait prononcer une malédiction, c'était une bénédiction qui sortait. Mais il a trouvé la façon de mettre Dieu en colère contre son peuple. C'était les inciter à la débauche et à l'idolâtrie. Avec les filles de Moab. Et cette colère a provoqué la mort de 24 000 personnes.
And then because God was so angry with them, 24,000 people were killed.
Et quelque part on se dit Dieu est un Dieu cruel.
And when we read this, we think that God seems very cruel.
Mais en fait quand on compare les morts pour la punition qui sert d'exemple, aux personnes qui ont été sauvées, on voit qu'en fait Dieu exerce la miséricorde et la grâce. Il voulait attirer l'attention de ce peuple, lui montrer le sérieux de ce péché. Et nous aussi, le Seigneur veut nous montrer le danger, le sérieux du péché de l'adultère, de l'immoralité sexuelle. Et tout ce qui est idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement les statuettes qu'on adore. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la première place qui appartient à Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Ça peut être des choses apparemment bonnes. Nos propres enfants peuvent devenir des idoles. Un métier peut devenir une idole. L'argent, la gloire, bien sûr, c'est des choses auxquelles on pense quand on pense aux idoles. Le Seigneur veut nous montrer qu'il faut être vigilant. Et donc nous arrivons à ce chapitre 26.
So we arrive at chapter 26.
Et là, on va voir que le Seigneur demande un nouveau recensement à Moïse.
So here we see that the Lord asks Moses to do a second census.
Parce que là, ils sont à la veille d'entrer enfin en terre promise.
But here they're nearly at the promised land.
Et la terre promise, encore, ça va être un territoire où il y aura des combats, des ennemis. Et il est important qu'ils connaissent leurs forces militaires. Donc Moïse va faire un recensement à la demande de Dieu. Dieu ne recommande pas toujours qu'on se compte entre nous. Parce que le danger, c'est qu'on mette notre confiance sur nos nombres. Et David a fait ce péché, il a recensé la population d'Israël sans que le Seigneur lui demande, et ça lui a été compté comme un péché. C'est un danger qui guette chaque mouvement chrétien.
And this is
Parce que notre chair voit les nombres.
Because our flesh sees that the numbers are great.
Et au lieu de mettre notre confiance en Dieu,
and instead of putting our confidence in God,
nous mettons notre confiance dans les nombres, dans nos ressources humaines. Et ça, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu.
And this is something that God does not like.
Lisons, nous allons d'abord rappeler que les tribus d'Israël venaient des 12 fils de Jacob. On les a déjà rencontrés dans le premier recensement, ces tribus. Et on va juste commencer le chapitre 26. À la suite de cette plaie, verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, faites le relevé de toute la communauté des Israélites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon leur famille, de tous ceux d'Israël qui peuvent prendre les armes. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, on fera le relevé depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse et aux fils d'Israël qui sortaient du pays d'Égypte. Et là, il va suivre la liste des différentes tribus. Et nous n'allons pas lire en détail chaque passage. Jacob avait eu des enfants avec 4 femmes.
Jacob had 4 wives and he had his sons with them.
Et là, on va voir justement la liste de ses enfants.
And here after we see a list of his sons.
Le premier, c'était Ruben.
The first was Reuben.
C'est le verset 5.
Verse 5.
Et il parle des différentes familles.
And here it speaks of different families.
Et puis, verset 7, il dit des familles du clan, il parle des chiffres,
43 730.
Par rapport au premier recensement, c'est près de moins
6%.
On va voir qu'il y avait des tribus, des familles de Jacob qui avaient grandi en nombre et d'autres qui avaient diminué. Et généralement, celles qui ont diminué en nombre, on va remarquer le nom de personnages qui nous ramènent à des fautes qu'ils ont commises dans le passé. Il est question au verset 9 de Dathan et Abiram. Et il est dit, ce sont ceux Dathan et cet Abiram convoqués par la communauté qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron avec la troupe de Corée lors de leur soulèvement contre l'Éternel. Donc ça fait allusion à ces deux personnages qui avaient participé à une révolte contre Moïse. Korah, qui était un lévite, avait mis en doute, mis en cause l'autorité de Moïse et d'Aaron.
Korah doubted Moses and Aaron's authority.
Et il avait été puni sévèrement, mais ses fils n'étaient pas morts, il est dit au verset 11. Les fils de Corée ne moururent pas.
So Korah himself was severely punished, but his sons continued to live.
Et on a vu aussi, on a rappelé qu'ils ont composé des psaumes à la gloire de Dieu. Et ensuite, question verset 12, des fils de Siméon. Ils étaient près de 60 000, ils se retrouvent à
22 000.
Plus de 60% de diminution.
So there's been a 60% decrease.
Et on pense que c'est parce qu'ils étaient impliqués dans l'affaire de Baal Péor, de l'idolâtrie. Vous vous souvenez de Zimri qui avait été pris avec Cosby et qui avait été tué par Phinéas, le fils d'Éléazar, le petit-fils d'Aaron. Phinéas. Et donc on pense que la plupart de la tribu devait être impliquée dans cette affaire d'immoralité sexuelle et d'idolâtrie. Et puis le passage passe donc en revue tous les nombres et on peut faire des calculs. Mais on voit en fait qu'à la verset 51, le calcul a été fait pour nous. Il en reste 601 730. Et ils étaient partis à 603 550. Donc en fait ils ont perdu que 0,3%, presque rien en fait. Et là on peut se demander, vous rappelez que le Seigneur avait dit que tous ceux qui avaient rejeté ses promesses, qui avaient douté de lui, allaient périr dans le désert. Donc il y en a 600 000 qui sont morts. Mais le Seigneur a pourvu par la grâce, il a fait qu'il y en a encore 600 000. Et ça m'inspire la réflexion que le Seigneur est toujours tout puissant pour accomplir ses desseins. Et si on n'est pas là pour le servir, c'est pas qu'il va se dire, oh là là, comment je vais faire. Il va nous remplacer facilement. Mais c'est nous qui allons perdre si nous ne nous engageons pas dans le service du Seigneur. Comme ces Israélites ont perdu. Verset 52, le Seigneur, par la bouche de Moïse, explique que le pays devait être partagé entre eux, entre ces tribus.
So in verse 52, the Lord explains to Moses that this country had to be shared among the tribes.
Donc le recensement, c'est pas seulement pour savoir connaître leurs forces,
so this census was not only to know how strong they were,
mais pour savoir comment ils allaient diviser la terre promise. Et là, on voit l'équité du Seigneur. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras un héritage plus grand, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras un héritage plus petit. Ça paraît naturel, on donne plus à ceux qui ont plus de besoins et moins à ceux qui en ont moins. C'est un principe que tout le monde admet, mais qu'on voit rarement appliqué dans le monde. Une autre chose, verset 55, c'est que le partage du pays aura lieu par le sort, par le tirage au sort. Donc on peut se dire, mais là je ne comprends plus, là il y a un tirage au sort et puis on dit que c'est pas d'après le nombre. Le tirage au sort va concerner l'emplacement géographique. Après ce sera selon leur nombre qu'ils auront plus ou moins de territoire. Et là, bien sûr, il y a cette histoire de tirage au sort. Est-ce que ça veut dire qu'on enlève la souveraineté de Dieu? Il y a un proverbe qui dit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. On peut jouer au dé, mais c'est Dieu qui contrôle. » On voit dans le Nouveau Testament, lorsqu'il s'agit d'élire un successeur à Judas,
in the New Testament we see that also when a successor to Judas has to be chosen.
Les apôtres restants prient et tirent au sort.
The apostles that are left over pray and then they choose by lot.
Et c'est la dernière fois dans le Nouveau Testament qu'on entend parler de tirage au sort.
And that's the last time in the New Testament that we hear about this way of choosing.
Alors peut-être que vous me dites, alors est-ce qu'un chrétien peut jouer au loto? Je crois que c'est encore une question d'attitude de notre cœur. Si on pense que la Française des Jeux est plus puissante que Dieu pour nous sortir d'une situation difficile, je crois pas que Dieu va influencer les tirages au sort. Et en règle générale, il est bon d'éviter les jeux de hasard. J'ai connu des chrétiens qui ont joué comme ça, pas qu'ils étaient accros de ces jeux. Ils ont même gagné des petits lots et ils payaient la dîme dessus. Donc je crois que c'est une question de conviction personnelle. Mais c'est un jeu, c'est une attitude très dangereuse, les jeux. Et la plupart des gens qui participent à ces jeux en France, ce sont les gens les moins fortunés. Et c'est un mauvais usage des ressources que Dieu a données. Donc prudence.
So we have to be very careful.
Verset 57, il est question de l'autre tribu, la tribu des Lévites.
So in verse 57, we read about the tribe of the Levites.
La Bible parle toujours des 12 tribus d'Israël.
The Bible always speaks about the 12 tribes of Israel.
Dont les Lévites, les fils de Lévi. Mais il y avait une tribu, celle de Joseph, qui avait donné deux tribus. Celle de Joseph avait donné naissance à Ephraïm et Manassé. Donc, suivant les cas, on parle de 12, et puis les Lévites à côté, où on parle des 12 sans distinguer entre les fils de Joseph. Verset 59 nous rappelle la généalogie de Moïse. Le nom de sa maman, Jochebed. Son père, Amram. Et le fait qu'il était il était frère et sœur avec Aaron et Myriam. Donc je vous laisse lire en détail ce passage. Simplement, verset 61, il est question de deux des enfants d'Aaron, Nadab et Abihu. Et si vous vous souvenez, c'est dans le Lévitique qu'on avait vu qu'ils avaient pris sur eux d'offrir à leur façon des sacrifices à Dieu. Et ça parle de ceux qui veulent adorer Dieu selon leur façon à eux. Ça parle aujourd'hui de ceux qui pensent qu'il y a un Dieu. Mais qui n'ont pas besoin de savoir ce qu'il a dit. Et qui l'adorent à leur façon. Le livre des Juges parle de ceux qui faisaient ce que bon leur semblait.
Judges.
Parle de ceux qui faisaient comme bon leur semblait.
The book of Judges mentions those that decided to do it the way they wanted to do it.
Et c'est fréquent lorsqu'on parle aux gens qui ne sont pas chrétiens.
And it's very frequent when we speak to people that aren't Christians.
De réaliser qu'ils se sont fait leur petite religion.
To realize that they've actually manufactured their own religion.
Ils sont peut-être baptisés, donc ils se pensent à l'abri de toute surprise plus tard. C'est un peu l'assurance vie éternelle. Et après, je peux organiser ma vie comme bon me semble. J'ai de compte à rendre à personne. Si Dieu est vraiment bon, si il est vraiment réel, c'est un Dieu d'amour et il permet tout. Je crois qu'il est important, lorsque des amis, des parents vous parlent de ça, de leur dire, mais on ne peut pas faire ce, n'importe quoi, Dieu a prescrit. Imaginez que vous soyez embauché dans une entreprise. Vous arriviez le matin. Puis dit, je vais faire ce que je veux. Le patron est bon, il y a des syndicats, je vais être payé quand même. Ça nous fait sourire, bien sûr. Mais c'est la même chose en ce qui concerne la relation des gens avec Dieu. Dans l'entreprise, vous allez essayer de savoir ce qu'on attend de vous. La même chose dans la parole, dans la vie chrétienne, il faut connaître ce que Dieu attend de nous, la parole de Dieu. Connaître les ressources qu'il met à notre disposition pour faire ce travail qu'il nous demande. Il avait exprimé son mécontentement avec Nadab et Abihu en les zappant, on dirait aujourd'hui, comme un micro-ondes. Puis plus loin, il est question de tous ces Israélites. Il y en avait 23 000, ils avaient gagné 1 000 nouveaux Lévites, pardon. Puis verset 64 nous rappelle que parmi les Israélites qui avaient été comptés, il n'en restait plus aucun du premier recensement. 38 ans plus tard. Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert, il n'en restait pas un, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Noun. Et donc, si vous réfléchissez sur ce passage, même sans l'avoir lu, on a évoqué trois paires de noms. On a vu, c'est pas Laurel et Hardy, mais c'était Dathan et Abiram. Puis après, il y avait Nadab et Abihu. Et puis, il y avait Caleb et Josué. Dathan et Abiram, c'était les rebelles. Nadab et Abihu, c'était les arrogants. Et puis, il y avait Caleb et Josué, alors eux, c'était les croyants. Tous avaient reçu la même promesse. Mais il y en a seulement deux qui sont entrés dans cette promesse. De quel groupe faites-vous partie? Êtes-vous un arrogant? J'ai pas besoin de savoir ce que la Bible me raconte. La Bhagavad Gita. Le Coran, les écrits de Confucius, Lao Tse, là aussi il y a plein de sagesse. Non, il n'y a qu'un seul chemin pour arriver à Dieu. Et si vous essayez autre chose, vous ne pourrez pas y arriver. Est-ce que vous faites partie des rebelles? Après tout, on est le pays de la Révolution française. C'est important de tenir tête. Dire non à toute autorité. et trouver le bonheur dans la rébellion. Je plaisante aussi, mais beaucoup dans nos cœurs, c'est souvent quelque chose. Dès qu'on nous demande de faire quelque chose, de quel droit? Mais pour qui il se prend? Ou alors êtes-vous de ceux qui vont dire Dieu est tout puissant, je crois en lui, je vais faire ce qu'il me demande? L'Église, qu'est-ce qu'il y a comme pessimisme dans l'Église? On ne peut rien faire. C'est bien si on est un petit groupe comme ça. Mais de penser que l'Église pourra un jour influencer le pays entier, que l'Évangile serait connu dans notre pays, qu'on en pourra en parler dans les écoles, non, ça c'est...
Impossible.
On est dans un pays post-chrétien, non? Comme le disait quelqu'un, ça ne veut rien dire post-chrétien. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Moralité ambiante comme une fatalité. Si Dieu est avec nous, alors nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie. Il faut savoir que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien faire de valable. Rien faire qui compte après quelques années. Et l'Éternel, sans la foi, nous ne pouvons pas lui plaire. Si vous êtes parent, vous savez que lorsque vous demandez à vos enfants de... Vous promettez quelque chose à vos enfants, vous avez de la joie lorsqu'ils vous croient. Je me souviens quand les enfants étaient plus jeunes, ils étaient accrochés à leurs jeux vidéo. Souvent le jeu de vidéo qu'ils avaient emprunté de leurs copains parce qu'on ne voulait pas qu'ils aient de jeux vidéo. Et je disais, viens, on va aller à la pêche dans un lac de montagne. Ils disent, non, je préfère jouer à la pêche sur la petite vidéo. Quand ils me faisaient confiance, ils me disaient, merci papa, ça valait vraiment le coup. Tu te rappelles pas de ça? Tonio ne s'en rappelle même plus. Faire confiance à notre Père Céleste. Au lieu de penser qu'on va trouver le bonheur par les remèdes du monde, les publicités, vous vous souvenez qu'il disait on va périr dans cette terre promise. Et donc Dieu avait répondu, puisque c'est ainsi, vous allez vos paroles vont se réaliser. Il disait nos enfants vont devenir une proie. Souvent, on peut mettre en avance nos enfants pour ne pas suivre Dieu. Dieu a dit, vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. Vos fils seront nomades pendant 40 années dans le désert. Ils porteront le poids de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. C'est net. Et donc pendant ces 38 années, on parle souvent des 40 ans, mais au départ, ils n'étaient pas encore en rébellion tout de suite. Il y a 600 000 personnes qui sont mortes. On avait fait le calcul, ça faisait un mort toutes les 30 minutes en moyenne. Moïse était un pasteur occupé avec les enterrements.
So Moses must be a very busy man for this funeral.
Mais encore une fois, on l'a noté, on se retrouve à la fin avec 600 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a eu autant de naissances que de morts.
This means that there were as many deaths as there were births.
Dans toutes les 30 minutes, un bébé naissait.
So every 30 minutes, a baby was born.
Il y a Becky qui se demande comment il faisait pour la nurserie.
Becky's wondering about Sunday school.
Et quand on connaît les circonstances difficiles du désert,
so if we know how difficult it is to survive in a desert,
voilà la main de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu.
We see that God's grace was with them.
De plus, la population était rajeunie.
And of course, the population had become younger.
En meilleure condition pour conquérir la terre promise.
They were stronger and they were ready to go into the promised land to conquer it.
Donc beaucoup de leçons dans ces passages de recensement. Many lessons. Juste pour terminer, nous allons regarder le chapitre 27. Et là, il y a deux parties essentielles. Il y a du verset 1 à 11.
So the chapters 1 to 11.
Et nous allons le lire ensemble rapidement. Alors s'approchèrent les fils de Tselophad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé. Je passe tous les noms. Les noms des cinq filles, c'est Mala, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles dirent: notre père est mort dans les airs, il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de la troupe de Corée, mais il est mort pour son propre péché, il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de son clan parce qu'il n'avait pas de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: les filles de Tselophad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux Israélites en ces termes: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Et là, en fait, on a le premier mouvement de libération de la femme de l'histoire.
So Pierce just read chapter 27, verses 1 to 11, and he says this is the first movement of woman's liberation.
Premier Amalef.
You know what that is,
Amalef. Wow. Women's organization.
First.
On entend souvent dire que Paul était un grand macho.
We often hear that people say that Paul was incredibly macho.
Que la Bible est très rétrograde.
Totally retrograde.
Il y a un passage dans Éphésiens 5 qui dit que les femmes doivent être soumises à leur mari.
And there's a passage in Ephesians 5 that says that women have to be submitted to their husbands.
Donc c'est vraiment à l'encontre de la société moderne libérée.
And that goes totally against what modern society thinks.
Mais en fait, c'est nier l'influence de la foi chrétienne pour libérer non seulement la femme, mais toutes les minorités dans l'histoire du monde.
This is just to pretend that the Christian religion has not had an influence on liberating not only women but all minorities in the history of man.
Dans le monde où ces gens vivaient,
in the world where these people were living,
dans les autres cultures,
in other cultures,
pays de Canaan juste autour d'eux,
countries that were surrounding them,
la femme était considérée comme du cheptel.
The woman was just considered as property.
Elle n'avait pas de personnalité en elle-même. On l'achetait.
She was bought.
Comme on achetait un tracteur aujourd'hui.
As we buy a tractor today.
Elle portait des enfants.
She carried children.
Mais souvent, elles étaient plusieurs à porter des enfants. Et en fait, là, on voit que ces jeunes femmes ont le courage de présenter une requête qui est tout à fait justifiée. Leur père n'avait pas participé à ces révoltes. Et s'il était mort, c'était simplement, il est dit, pour son propre péché. Ça, je crois que ça fait référence au fait que nous mourons parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous naissons avec le péché et nous portons en nous cette fatalité de la mort, de la punition de Dieu. Donc, autrement dit, il n'avait rien fait de mal spécialement. Elle ne voulait pas que le nom de leur père soit oublié. Simplement parce qu'il n'avait pas de fils. Et en ce, elle respectait les 10 commandements qui disent « Tu honoreras ton père et ta mère ». C'est le commandement qui vient avec une promesse de longue vie. Aujourd'hui, nous trouvons tout à fait normal qu'il y ait une rébellion entre les générations. Mais le Seigneur veut qu'il y ait l'amour entre les enfants et les parents. Et les enfants, ce n'est pas aussi quelque chose qui est dans la culture, doivent du respect, de l'honneur à leurs parents. Les parents, en échange, ne doivent pas les excéder. Les rendre fous par des requêtes, par des attitudes. Mais Dieu a un beau plan pour la famille. Et Moïse a une bonne réaction. On l'a déjà vu ça. Dans chapitre 9. C'est à lui que revenait la lourde tâche de gouverner Israël. Il n'avait pas honte de dire, quand on lui posait des questions auxquelles il n'avait pas de réponse, « Je ne sais pas ». Et ce qu'il faisait, il disait « Je ne sais pas », il allait demander à Dieu. Et ça, c'est un merveilleux réflexe. Pour tous. Dans nos responsabilités vis-à-vis d'autres personnes, avec nos enfants, dans nos entreprises, dans notre travail, à l'église. Je ne sais pas, mais je connais quelqu'un qui sait. Et donc, l'Éternel demande à Moïse, l'Éternel plutôt répond à Moïse en lui disant, oui, elles ont tout à fait raison. Et elles pourront hériter de la possession de leur père. Et puis il ajoute même, il élargit la règle. Il dit, s'il n'y a pas d'enfants proches, que ça aille aux oncles, aux parents les plus proches. Elles avaient demandé une propriété. Le Seigneur leur donne plus qu'elles n'avaient demandé. Il leur donne la possession héréditaire de cette propriété. Elles pourront passer cet héritage à leurs enfants. Et je vois, ce serait un bon nom pour une organisation de droits de la femme, les filles de Tselophade. Elles avaient une foi exemplaire. Rappelez-vous, ils étaient toujours en dehors, ils n'avaient pas encore franchi le Jourdain. Et là, elles parlent déjà de la terre qu'elles veulent avoir. Il n'y a plus de doute dans leur cœur. Elles montrent aussi du courage. parce qu'elle n'hésite pas à aller devant les responsables de la communauté, quelque chose qui peut-être était intimidant devant la tente de la rencontre, devant Moïse, devant Éléazar. Aaron, son père, était mort, c'était lui le grand prêtre, et tous les chefs de clan. Mais là aussi, ça nous enseigne une leçon. Trop souvent, Jacques nous le dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Encore une fois, je crois qu'il y a cette illustration de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour chaque chrétien. Et on dit que les anges se promènent dans cet entrepôt gigantesque en se disant, mais pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas? Demandons dans la prière. Demandons de grandes choses, pas pour nous, mais pour Dieu. Dieu veut être glorifié. Dieu veut être là pour nous. Il veut que nous croyions à ses promesses. Encore une fois, je vous invite, je vous encourage à venir aux réunions de prière. Nous avons prié pour que Rain avait perdu son passeport avait été égaré par le consulat français à San Francisco. Il n'était pas sûr qu'on lui avait accordé un visa ou pas. Ça fait 2 semaines qu'on prie. Et hier, il a appris qu'on avait retrouvé le visa, le passeport avec le visa. Alors peut-être vous dites, bon, bah, c'est une coïncidence, il n'aurait pas prié, ça serait arrivé quand même. Mais lorsque nous prions, nous savons que c'est une réponse. Et finalement, nous allons terminer avec Moïse qui demande un successeur. L'Éternel avait dit à Moïse au verset 12 de monter sur la montagne d'Abarim, de regarder le pays qu'il allait donner aux Israélites. Tu pourras le voir, mais toi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. C'est-à-dire une façon de dire, tu vas mourir avant de pouvoir rentrer. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Sin, lors de la contestation de la communauté, verset 14, et que vous n'avez pas sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadesh dans le désert de Sin. C'est le rappel de l'épisode où Moïse s'était mis en colère contre le peuple de Dieu, avait frappé 2 fois le rocher alors que Dieu lui avait demandé de parler simplement au rocher. Il avait mal représenté Dieu. Il avait représenté Dieu en colère alors que Dieu était toujours prêt à accorder sa grâce. Et en fait, on voit que Moïse, il accepte cette situation sans rechigner. Mais il demande à Dieu qu'il établisse un successeur, quelqu'un qui puisse guider la communauté de l'Éternel. Et ça, c'est le cœur de Jésus qui, lorsqu'il voyait les foules, disait qu'il avait compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et c'est exactement les mots que Moïse utilise au verset 17. Il ne veut pas que la communauté de l'Éternel soit comme des brebis qui n'ont point de berger. Et donc on voit l'amour que Moïse avait pour son peuple, le désintéressement qu'il avait pour son peuple. Et on se dit, le Seigneur est dur avec lui. Mais en fait, on sait qu'un jour, il va mettre le pied sur cette terre promise. Dans le Nouveau Testament, il est apparu aux disciples sur le mont de la Transfiguration. Et l'homme que Dieu a choisi, c'était Josué. C'était du boulot. Gouverner Israël.
What a job, leading Israel.
Et conquérir Canaan.
And to take over Canaan.
Nous avons le même défi aujourd'hui.
And we have exactly the same objective today.
Nous devons mener l'Église.
We have to lead the church.
Et conquérir le monde autour de nous.
And to conquer the world that's around us.
Mais ce qui est rassurant, c'est que Josué, en fait, c'est un type, une préfiguration de Jésus. Il est la tête de l'Église. Il est avec nous pour faire des disciples de toutes les nations. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler que c'est par la foi que nous pouvons te plaire, Seigneur. Seulement par la foi. Merci de nous libérer des œuvres. Les œuvres faites pour essayer de t'impressionner. Ou pour mériter quelque chose en retour. Tu nous dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire de toute façon. Mais avec toi, tout est possible. Alors Seigneur, aide-nous à demeurer en toi. Comme la branche doit demeurer sur la vigne. En contact, en relation étroite. Merci de ce que tu es avec nous, Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore cette relation d'intimité avec le Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore plantés sur la vigne. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous inviter à le faire. Et vous pouvez le faire en répétant en silence cette simple prière. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. C'est-à-dire de choses qui ont une durée, qui ont une valeur durable. Valeur éternelle, oui. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je suis un pécheur. Seigneur, merci du sacrifice que tu as fait à la croix, qui a payé pour ma faute, Seigneur, pour tous mes péchés, ceux du passé, ceux de maintenant et ceux du futur. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te demande d'y venir régner. Seigneur, aide-moi par ton Esprit Saint à m'éloigner du péché pour me tourner vers toi. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Et pendant que nous sommes recueillis, si certains ont prié cette prière, j'en demanderai de lever la main. Souvenez-vous que aujourd'hui est le jour du salut. Merci Seigneur pour ces deux personnes qui se donnent à toi. Fortifie-les, Seigneur. Protège-les de l'ennemi qui voudra les éloigner de toi. Merci de marcher avec elles, Seigneur, et nous à les fortifier aussi, Seigneur. Sois glorifié dans leur vie. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu.